concernant la gloire de Dieu. Donc, cette série, la nuée et la gloire de l'Éternel. Et donc, nous allons prendre ce passage dans 2 Chroniques, chapitre 5. C'est là, je vous invite à préparer vos Bibles. 2 Chroniques, ce sera surtout 2 Chroniques 5 et 7. La semaine dernière, nous avons vu que la nuée était apparue comme un mur ténébreux du côté des Égyptiens et lumineux du côté des enfants d'Israël lorsqu'ils avaient cette fuite précipitée de l'Égypte. Et donc, c'est là que nous voyons pour la première fois cette nuée qui est ténèbres pour l'un et lumière pour l'autre. C'est cette nuée qui va les conduire, les faire traverser la mer Rouge et les conduira jusqu'au Sinaï. Nous avons aussi vu la dernière fois que c'est un an après la sortie de l'Égypte que Moïse a rassemblé et assemblé le tabernacle, parce que c'était fait de manière à être transporté et donc démontable. Et donc là, pour la première fois, il le rassemble comme un gamin ferait avec des Legos. Il rassemble tout cela, tout est prêt, tout est en place. Et alors, tous les meubles sont là. Et après, il faut la vie. C'est comme vous construisez une maison toute neuve. Mais après, c'est encore, il manque quelque chose. Il faut quelqu'un qui habite dedans pour que ça soit vraiment une maison. Eh bien, et là, au moment où tout est mis en place, les prêtres sortent du tabernacle et juste à ce moment-là, eh bien, il y a la nuée qui arrive, qui se place au-dessus du tabernacle et il nous dit que la gloire de Dieu envahit ou remplit le tabernacle. Ça, on trouve tout ça dans Exode chapitre 40 et les derniers versets. Donc là, ils ont dressé tout cela. Moïse l'avait fait fidèlement selon le modèle que Dieu lui avait montré sur le mont Sinaï. Et là, Dieu approuve, Dieu investit et tout d'un coup, ça devient un lieu vivant. Et c'est ça toute la différence que nous voulons aussi dans notre vie chrétienne. Sans un Dieu, c'est de la religion. Avec Jésus-Christ qui vit en nous, qui nous conduit, ça devient une vie. Et c'est là toute la différence. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir de la traversée du Jourdain, quand il pénètre dans Canaan, eh bien, la nuée n'est plus mentionnée comme étant là pour les conduire. Ils ont été conduits jusque-là, et ensuite, la nuée n'est plus là pour conduire. Et là, c'est l'Arche de l'Alliance qui va prendre l'Arche de l'Alliance qui est dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint du tabernacle, qui représente la présence de Dieu. Eh bien, Dieu ordonnera que ce soit les prêtres qui portent cette arche de l'Alliance, cette caisse consacrée et qui représente la présence de Dieu, c'est elle qui va traverser le Jourdain. Et dès que les prêtres qui portent cette arche touchent l'eau, l'eau s'arrête et ils commencent à traverser. Eux se tiennent au milieu et le peuple traverse. Et ensuite, eux finissent par traverser et le fleuve reprend son lit. Et donc, il semblerait, lorsque nous lisons les premiers chapitres de Josué, Josué, maintenant qui a remplacé Moïse, il établit son quartier général à Gilgal, dans un lieu auquel ils ont donné le nom de Gilgal. Et donc, il semblerait que c'est là qu'il dresse le tabernacle, ça devient le lieu, et parce qu'on voit par la suite, chaque fois qu'il consulte Dieu, ils reviennent à Gilgal. Par la suite, on voit dans Josué chapitre 18, verset 1, on voit que le tabernacle est dressé à Silo, dans la ville appelée Silo. Il y a très peu mention, on en parle très peu, Silo. Il se trouve là, à l'époque de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 21, et on trouve, ils vont à Silo, au tabernacle, consulter Dieu. Mais à Silo, la corruption commence à pénétrer. Déjà, si vous avez lu le livre des juges, vous voyez que c'est pas les enfants d'Israël ne sont pas très fidèles, et ça c'est gentil, ils ne sont pas fidèles du tout à Dieu. Et donc, quand on arrive à l'époque du souverain sacrificateur Élie et ses deux fils, eh bien, la corruption est telle que Dieu permettra à l'ennemi, aux Philistins, de prendre l'arche et de l'emporter. Eux ont pensé que si on porte l'arche sur le champ de bataille, eh bien, Dieu, pour sauver son honneur, va préserver, leur donner la victoire. On va traîner Dieu sur le champ de bataille, et même si on n'est pas fidèle, il sera obligé, rien que pour sauver son nom. Eh bien, Dieu ne travaille pas comme ça. Et il y a des gens qui croient que parce qu'ils ne vont jamais à l'église, il n'y a rien du tout, mais parce qu'ils portent une croix, ça ira mieux. Non, non, on ne peut pas traîner Dieu là où on va, et puis pour que ça apporte quelque chose. Il dit, moi, c'est toi que je veux. Ce n'est pas autre chose. Et donc, là, les Philistins auront la victoire, et ce sera un dénouement terrible pour les enfants d'Israël. Et certainement, le texte ne dit rien, mais il y a de fortes chances que ce soit les Philistins qui aient détruit carrément le lieu, le silo. Certains, dans la lecture à côté, dans les Talmuds et les choses des livres à côté, ils pensent que peut-être que les Juifs, lorsqu'ils ont vu qu'ils perdaient la bataille, ils ont vite démonté le tabernacle, les pièces, et ils les ont cachées, comme ils le font souvent, comme ils l'ont fait déjà plusieurs fois. Et ils les ont cachées, mais l'endroit était démoli. L'endroit où était le tabernacle, en tous les cas, il n'est plus utilisable. Et alors on voit sous le règne de Saül, eh bien on voit que les prêtres se trouvent dans la ville de Nob. Saül va se fâcher un jour contre tous ces prêtres parce qu'il pense qu'ils sont du côté de David et du roi David. David qui n'est pas encore roi mais qui est en fuite et il va les massacrer tous ces prêtres dans la ville de Nob. Et ce n'est que pendant le règne de David, le roi David, là je vous fais de l'histoire, mais c'est pendant le règne du roi David que David, qui lui aimait Dieu et qui adorait Dieu, eh bien lui va aller chercher l'arche de l'Alliance dans la maison d'Obed-Edom, là où c'est caché. Et lui va aller, et vous pourrez lire les détails, mais dans un roi, mais il va aller le chercher et il va le transporter jusqu'à Jérusalem, qui est appelée la ville de David. Et là, il dressera une tente. On ne sait pas si c'est le tabernacle du désert, mais en tous les cas, il nous dit que c'est une tente. Il a dressé une tente dans laquelle il met l'arche. Et ce n'est en fait, ce n'est que sous Salomon, David aurait voulu construire un temple pour Dieu, mais Dieu lui dit non, tu es un homme de guerre, tu as trop de sang sur les mains, laisse-le pour ton fils. Et Salomon, qui en fait n'aura aucune bataille, eh bien c'est lui qui bâtira le temple de Salomon, le temple glorieux de Salomon. Et c'est à ce moment-là que l'Arche de l'Alliance sera placée dans la maison qui a été édifiée, la maison de l'Éternel. Et donc là, nous arrivons dans 2 Chroniques, chapitre 5. Voilà, c'est péripéties, tout ce qui est arrivé. Mais vous savez, est-ce que vous avez remarqué ce que je remarque? dans tout ce que je vous ai dit, c'est que au début, quand il y a la nuée, et ensuite l'arche de l'Alliance, eh bien, ça nous est présenté comme c'est Dieu qui prend soin de son peuple. Mais vous voyez au fur et à mesure de livre des juges, de Samuel et jusqu'à David, eh bien, ce n'est plus Dieu qui prend soin du peuple, et c'est le peuple qui, plus ou moins, essaie de s'occuper et protéger l'Arche de l'Alliance. Il y a vraiment quelque chose, une détérioration. Hein. Et c'est plus la même relation. C'est plus la même situation. Et en fait, l'un des fils des Élie, quand les Philistins prendront l'arche et l'emporteront dans leur ville, eh bien, sa belle-fille est sur le point d'accoucher, et lorsqu'elle entend que l'arche est emportée, elle accouche, en entendant la nouvelle, elle accouche, et elle donne le nom suivant à ce fils, elle l'appelle Ichabod, qui veut dire « la gloire a disparu ». Elle a constaté qu'ils étaient arrivés au point où cette gloire qui avait envahi le tabernacle dans le désert, eh bien là, la gloire est disparue. Ichabod. Et ça devient triste. On dit, mais attendez, je croyais que Dieu est toujours avec nous et qu'il prend soin de nous. C'est vrai, l'arche est toujours là. Parce que même les Philistins, vous pourrez lire l'histoire, elle est très intéressante, lorsqu'ils l'ont emporté, mais ils n'ont eu que des ennuis, ils l'ont renvoyé. Hein? Donc Dieu peut prendre soin de lui-même, et même si c'est sous la forme d'une arche, il peut s'en occuper. L'arche est toujours là. Quand on arrive jusqu'à Salomon, et l'arche est là, Dieu est là. La question, c'est l'influence que Dieu a sur le peuple. Et là, vous savez, là on peut retirer un principe pour nos vies chrétiennes. C'est que lorsque je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, bien sûr, Dieu est présent là, par la présence du Saint-Esprit. Il est présent. Mais, et si je suis obéissant, et sa présence se voit, son influence est là, il transparaît dans nos vies. Mais si nous sommes désobéissants, si nous résistons à son influence, eh bien, on commence à voir des chrétiens qui ressemblent à des gens qui n'ont jamais cru. Vous vous connaissez peut-être, et peut-être est-ce que vous êtes même passé par là. Une époque de votre vie chrétienne où finalement, on n'aurait pas vu la différence entre un non-croyant et vous, ou avec cette personne à laquelle vous pensez. Guy nous a averti tout à l'heure de ne pas penser à quelqu'un d'autre quand on pense de ces choses-là, mais de penser à soi-même. Alors, regardons à l'homme dans le miroir. Hein. Et vous savez ce qu'il nous dit lorsque l'apôtre Paul nous parle justement de ce principe et nous dit dans Éphésiens 4:30, je ne vais pas le développer là, mais dans Éphésiens 4:30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. N'attristez pas. » Et comment est-ce que nous l'attristons? C'est par notre résistance, c'est par notre refus de se laisser conduire par lui, notre refus de faire les choses comme la Bible l'enseigne. Et donc il dit, il est attristé. Il est présent, mais il est attristé. Et laissez-moi vous dire qu'un chrétien dans lequel le Saint-Esprit est attristé, c'est un triste chrétien. Et même si la chose perdure, et même si la résistance devient telle que c'est un blocage total, eh bien il nous dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire là encore, là, après, il n'y a plus aucune évidence de sa présence. Il est là, la lampe est là, C'est le petit lumignon, mais ça ne transparaît pas. Les réactions, le comportement de celui qui a été chrétien et celui qui est toujours chrétien, mais qui a été vivant, qui avait un témoignage, tout d'un coup, on voit rien du tout, il n'y a plus rien qui reste. Mais ça provient du fait, et le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël est une illustration de cela. Dieu est toujours présent, mais si je ne l'écoute pas, eh bien, on voit plus son influence. Et lorsque vous lisez les récits des enfants d'Israël, par exemple dans le livre des Juges, vous dites, mais ça, c'est pas un peuple de Dieu, c'est pire que les gens non-croyants. Et c'est vrai. Et parfois, nous sommes très déçus par des gens qui se prétendent d'être de Christ. Et donc, mais, on ne va pas s'arrêter là. Paul, en Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit. Il exhorte les chrétiens, il dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est une chose qui est toujours à notre disposition, c'est d'être remplis de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire être sous le contrôle. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, ça c'est de la débauche, c'est-à-dire ne soyez pas sous le contrôle de l'alcool, là où vos facultés ne sont plus, vous ne maîtrisez plus ni vos facultés, ni vos pensées, ni est-ce que vous arrivez même à vous retenir dans ce que vous disiez ou vous faites. Et pour arriver même au point de ne plus savoir, plus conscient du temps, ni de on se trouve. Il dit, mais soyez au contraire remplis de l'esprit, ça veut dire contrôlés par lui. Ou c'est lui qui conduit, ou c'est lui qui a, pour employer une ancienne expression, pour ceux qui comprennent la cavalerie, hein, c'est qui a les rênes de notre vie. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a le volant de ma vie. Et il dit comment être rempli de l'esprit? Ben, Éphésiens 5, verset 19 nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Un chrétien dans lequel le Saint-Esprit n'est pas attristé, eh bien, chante. Il veut chanter. Il a un chant dans son cœur. Et ce n'est pas seulement qu'il chante la musique, mais il chante les paroles des chants. Et même s'il ne sait pas chanter, il chante quand même. Pourquoi? Parce qu'il est heureux. Hein? C'est le bruit joyeux est plus agréable qu'une belle voix, mais la personne ne sait même pas de quoi il chante. Dans Romains chapitre 1, verset 21, il nous dit, les hommes ayant connu Dieu ne l'ont point glorifié et ne l'ont point remercié, ne l'ont point rendu grâce. Pour Dieu, deux éléments essentiels. Si Dieu est à sa place dans ma vie, c'est que je vais le glorifier, c'est-à-dire lui attribuer ce qu'il a fait. Et vraiment le lui attribuer. Et je dirais entre parenthèses, ce n'est pas la peine de lui attribuer ce qu'il n'a pas fait. Il y a des gens qui font des choses, qui réussissent, et puis après, ils essayent de faire, ben, Dieu, il m'a aidé. Mais tu n'as même pas demandé à Dieu, rien du tout, tu as fait ça avec tes propres forces. Il n'a pas besoin de ta gloire, il n'a pas besoin qu'on lui attribue des choses qu'il n'a pas faites. Dieu, en lui-même, a fait des choses suffisamment glorieuses. Il dit, ce que toi, tu as fait, garde-le pour toi. Ce que j'ai fait, reconnais ce que j'ai fait. Et il dit aussi d'être reconnaissant, d'exprimer la reconnaissance. Et donc, nous devons faire cela en tout temps, toute la semaine, hein, pas seulement pendant le culte, parce que notre frère Guy nous fait chanter certains chants de louange, alors donc on loue le Seigneur. Non, non, faut que ce soit. Hein, en fait, il nous aide à exprimer ce qui est déjà là, dans le cœur. Je dirais, ne vivons pas comme si nous étions des athées. L'athée, il ne fait jamais mention de Dieu. Il dit jamais gloire à Dieu. Il dit, il faut qu'on se démarque, hein. Surtout de nos jours, C'est étonnant, mais si vous fréquentez un petit peu les musulmans, vous les entendez dire tout le temps Abdullah, Abdullah. Pourquoi? Et vous avez appris à le dire. Pourquoi? Parce qu'ils le disent tellement. Tout ce que ça veut dire, c'est gloire à Dieu. Mais alors pourquoi est-ce que les gens qui fréquentent les chrétiens n'apprennent pas l'expression gloire à Dieu? Ou Alléluia? Le passage d'Apocalypse ce matin, j'étais étonné. Combien de fois il y avait Alléluia? Et là, le Alléluia, ils n'avaient pas besoin de le dire 36 fois. Quand ils le disaient, ça voulait dire quelque chose. Hein. Et vous savez, maintenant, vous êtes là dans 2 Chroniques, chapitre 5. Alors, c'est là, justement, on y arrive. Alors, on va lire 2 Chroniques, chapitre 5. Parce que, justement, cette partie-là, ce point numéro 1 que je traite là, c'est le retour de la nuée et de la gloire de Dieu en Israël. Et c'est dans ce chapitre de Chroniques, chapitre 5. Et à la fin du chapitre, on pourrait lire tout le chapitre. Parce que justement, il parle de l'arche qui est transportée et apportée dans le nouveau temple. Je vais lire des versets par-ci, par-là. Lisons déjà le premier verset. Il nous dit: Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans le trésor de la maison de Dieu. Voilà, verset 7. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Donc là, ils portent l'arche de l'alliance et le mettent à sa place dans le lieu très saint, à l'ombre des ailes des chérubins. Et ensuite, je commence à lire au verset 11. Je vais lire le verset 11 jusqu'à 14. Il dit: Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés pour observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jétutun, et leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths, des harpes. Ils avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant de la trompette. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir les tempêtes, les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours, et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour y faire le service à cause de la nuée, et la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous avez remarqué? Là, ça revient. Et comment est-ce que c'est revenu? Premièrement, on a mis Dieu à sa place, l'arche. À sa place. On a commencé à louer Dieu par la pensée, le résumé de cette pensée, c'est car sa bonté durera toujours. Et il y avait les chants, il y avait les instruments, c'était un son glorieux qui montait vers Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, tout d'un coup, il y a la nuée qui envahit le temple. Et il nous dit, la nuée envahit le temple et la gloire de Dieu est présente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il dit, oui, on a parlé de celui qui attriste le Saint-Esprit, celui qui éteint le Saint-Esprit. Mais il nous dit, mais au contraire, vous devez être rempli de l'Esprit-Saint, habité, possédé, contrôlé, envahi par l'Esprit Saint. Et comment il a dit? C'est en louant le Seigneur. Là, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et Dieu a montré son approbation et il est venu. Et là, tout d'un coup, on a la présence visible, car tous l'ont vu, la présence visible de Dieu qui prend possession de ce qu'on lui offre. Et le principe, Dieu n'a pas changé, et le principe reste toujours le même. Et c'est et la pensée qui était la louange, c'était « car sa bonté durera toujours ». Quand ils disent que sa bonté durera toujours, ils sont en train d'évoquer tout ce que Dieu a fait depuis le début jusqu'à ce temps-là. Ils sont en train d'évoquer toutes les attributs de Dieu qu'ils ont ressentis dans leur histoire. Et ils sont en train de le remercier. Ils emploient le mot « car sa bonté ». C'est comme ça qu'ils qualifient les œuvres de Dieu pour eux. C'est une expression de bonté. Donc il y a la louange, il y a l'action de grâce, et tiens, on vaille. Vous savez, c'est le même principe pour nous aujourd'hui. Le chrétien peut souffrir, il n'y a pas de problème, et notre frère nous a parlé tout à l'heure du baume que le Seigneur pourvoit. Mais le chrétien est joyeux. Même lorsqu'il est dans la souffrance, qu'il est dans l'épreuve, mais il y a une joie profonde. Jésus a dit, je vous donne ma joie. Pas comme le monde donne. Hein? Vous savez, il nous dit qu'ils ont loué le Seigneur. Regardons un peu le contenu de leur louange. Parce qu'il nous dit qu'ils chantaient. Ils chantaient des paroles. Et quelles étaient les paroles ? Eh bien, ce seront des paroles que David avait préparées. Mais avant de dire cela, eh bien, je veux juste souligner l'importance du contenu de nos louanges. Vous savez, dans nos milieux évangéliques, on a un temps qu'on appelle la louange. Et en général, quelqu'un qui vient de l'extérieur, on lui dit, à quel moment tu penses qu'il y a eu la louange ? Il va dire, bon, ben, quand il y avait beaucoup de bruit, et puis la musique, et puis les gens dansaient, et puis les gens ceci, cela, ça c'était la louange. Est-ce que c'est ça la louange ? Ou c'est ça le moment où on se fait plaisir ? J'ai eu une fois un gars qui a visité, il m'a dit, vous savez, j'ai été dans les églises, j'ai vu ça, j'ai l'impression que les chrétiens se font plaisir. Ils disent que c'est pour Dieu, mais en fait c'est pour eux. Et vous savez, on a tendance à nous concentrer sur l'ambiance que crée notre louange et non pas sur les paroles de louange. La musique, c'est juste un véhicule pour transmettre les pensées. Les psaumes, c'était de la poésie. Et la poésie, c'est une manière de dire les choses qui sont dans le cœur. Et ici, le roi David avait composé un psaume à l'occasion où, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il a transporté l'Arche de l'Alliance, il l'a mis dans une tente près de Jérusalem. Pour l'occasion, il avait composé un psaume. En fait, le psaume était composé d'extraits de plusieurs psaumes. Vous n'allez pas pouvoir noter, mais en tous les cas, ce sera enregistré là. Dit dans... regardez avec moi dans 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16. Et nous avons le psaume que David a composé à l'occasion de... c'est une occasion équivalente où l'Arche de l'Alliance était portée dans le temple. 1 Chronique, chapitre 16. Alors, le psaume, justement, eh bien, il dit au verset 7, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges à l'Éternel. » Et donc, le psaume va du verset 8 jusqu'au verset 36. Juste pour votre information, les versets 8 à 22, viennent du psaume 105, des versets 1 à 15. Les versets 23 à 33, ici dans 1 Chronique 16, eh bien finalement sont des versets du psaume 96, des versets 2 à 16. Et puis c'est la fin ici, donc les versets 34 à 36, la fin de ce psaume, eh bien provient du psaume 106, le verset 1 et les derniers versets du psaume 106, les versets 47 et 48. Donc il a pris des psaumes et il les a rassemblés pour donner un message. Et la première partie, eh bien la première chose, des versets 8 à 22, finalement, il est en train de mettre en valeur la fidélité de Dieu. Lisons. Donc, 1 Chronique, chapitre 16 et verset 8. Il dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui chantent cherche l'Éternel, se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. » Et ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il, Dieu, ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça, c'était la première pensée, c'est de mettre en valeur la fidélité de Dieu. Dieu qui a pris ce petit groupe, Abraham et son épouse qui est stérile. Et à partir de là, il a fait un peuple qui a occupé le pays de Canaan. Il dit, Dieu est un Dieu fidèle. Il a voulu mettre cela en valeur. Ensuite, lisons des versets 23 à 30, à 33, des versets 23, donc la suite. Il dit, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel qui vient pour juger la terre. Là, il met en valeur l'universalité de Dieu. Vous avez remarqué des expressions comme au verset 23, « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre !» Et au verset verset 24, il dit les nations, et puis il parle les peuples, tous les peuples. Au verset 28, il dit les familles des peuples. Au verset 31, il dit les nations. C'est Dieu est le Dieu de l'univers. le Dieu de tous. Et tous sont invités à venir à lui. Il n'était pas le Dieu des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël devaient faire de lui leur Dieu. Mais il était le Dieu du monde entier. Et il y a eu des non-juifs qui sont venus à lui. Par exemple, Ruth, hein, la Moabite. Il y a eu... Rahab de Jéricho, hein, une ville qui était sous la destruction, mais elle est venue, elle s'est intégrée. Et il y a eu beaucoup d'autres, parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez comment ils doivent accueillir, et vous voyez la description de David lorsqu'il décrit son royaume, il y a tellement d'étrangers dans son armée, dans tout ça, c'est tous des gens qui se sont intégrés au peuple de Dieu. Hein, donc c'est pas le sang qui détermine si on appartient à Dieu, c'est la foi, c'est le fait de s'attacher à Dieu. Et là, David, il a mis en valeur d'abord la fidélité de Dieu, ensuite il dit mais Dieu est grand, Dieu est le Dieu de tous. Et c'est un Dieu universel. Et après les versets 34 à 36, il dit « Louez l'Éternel car il est bon ». Car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu, de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Ça, il est en train de mettre en valeur, il dit que le peuple de Dieu paresse. Les enfants d'Israël, ils avaient donné comme raison pour avoir un roi, le roi Saül, nous voulons un roi comme les autres. Il dit non, vous devez être distinct des autres. C'est pas une question de pouvoir disparaître dans la foule, c'est question de paraître dans la foule pour Dieu. Et là, il met en valeur cette identification à son peuple. Remarquez qu'il dit, au verset 35, il dit « Sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. » Retire-nous du milieu des nations. C'est-à-dire que tu nous prends de parmi les nations et puis tu nous mets à part. Vous savez que c'est le mot « église » vient du grec « ekklesia », composé du préfixe « ek » qui veut dire « hors d'eux, et ecclesia qui vient du mot kaleo, qui veut dire appeler, inviter. Et donc, en fait, l'Église, c'est l'assemblée des personnes qui ont été appelées du monde pour être à lui. C'est toujours cette même pensée. C'est, oui, le message est pour tous, mais ceux qui le reçoivent, eh bien, se retire, non pas pour être à part, mais pour être distinct, visible, et pour attirer les autres. Et vous savez, il y a des gens qui disent, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est deux choses différentes. Moi, je veux que... Écoutez, le Nouveau Testament ne peut pas exister sans l'Ancien, et l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau. Et il faut étudier les deux, et j'espère que ça ressort, mais c'est un même Dieu, c'est une même pensée. Hein, c'est seulement lorsqu'on se perd dans des détails de ce qui se passe et tout ça qu'on ne le voit plus. Mais l'Ancien Testament n'est pas pour là de nous donner l'histoire des enfants d'Israël, mais plutôt de nous donner les récits de l'œuvre de Dieu parmi les hommes. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Toujours voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On peut être très distrait dans l'Ancien Testament parce qu'on voit ce que font les hommes. Et on dit c'est terrible. Ben oui, c'est terrible, même au de nos jours, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce que Dieu fait pour ces hommes si terribles. Et Dieu est toujours, encore aujourd'hui, en train de vouloir faire des choses merveilleuses dans ce monde où les hommes sont si terribles. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit 2 Chroniques, chapitre 5 et chapitre 6. Alors, il faut passer au chapitre 7 maintenant, 2 Chroniques, chapitre 7. Et il y a quelques vérités que nous voulons faire ressortir. C'est toujours le même événement. Deux Chroniques, chapitre 7. Et je vous lis les premiers versets, là. Déjà, je vais lire les trois premiers versets. Donc, 2 Chroniques, chapitre 7, dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier », donc j'ai sauté le chapitre 6. Le chapitre 6, c'est la prière de Salomon. C'est très intéressant. Vous pouvez l'étudier et voir. C'est très, très intéressant. Mais alors, il nous dit au verset 7, « Lorsque Salomon eut achevé de prier », regardez ce qui se passe. « Le feu descendit du ciel et consuma les holocaustes et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, et adorèrent, louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et Moïse, déjà dans le désert, il avait consacré le tabernacle. On avait vu, je vous ai rappelé, la nuée était descendue sur le tabernacle. La gloire de Dieu avait envahi le tabernacle. Mais ce qu'il nous dit en Lévitique, chapitre 9, verset 24, il nous dit que dès que, lorsque le premier sacrifice est mis en place, et le premier sacrifice est posé sur l'autel. Il nous dit que Aaron a béni le peuple, et lorsqu'il a fini de bénir le peuple, eh bien il nous dit le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Il dit c'est exactement de la même manière. Ça a été perdu, et là, c'est restauré. Sous Salomon, c'est restauré. Le feu, Dieu rallume le feu. Il envoie le feu qui consume le sacrifice. Et il nous dit que là, la nuée, encore une fois, la gloire de Dieu qui remplit la maison, et à tel point, c'était les prêtres devaient sortir, parce que quand Dieu envahit, il n'y a plus de place pour autre chose. Dieu ne partage pas sa gloire. Il dit qu'on peut pas, les lumières et les ténèbres ne peuvent pas habiter le même lieu. C'est ou la lumière ou les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres, et pareil dans nos vies. Vous savez, l'Éternel ne cherche pas que nous lui offrions des holocaustes et des sacrifices qui soient consommés par un feu qu'il n'a pas allumé. Il y a beaucoup de gens qui veulent offrir à Dieu. Ils offrent des prières, ils offrent des jeûnes, ils offrent de la consécration, ils offrent des pèlerinages, ils offrent toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, je ne veux pas ces sacrifices sur lesquels c'est un feu étranger. Parce que Dieu a réagi très vivement. Dans Lévitique chapitre 10, il y a un moment où deux fils de Aaron, eh bien, ils se disent, du feu, c'est du feu. Et donc, l'encensoir où il y a les parfums, eh bien, ils prennent des braises de n'importe où, plutôt que de les prendre de l'autel, le feu que Dieu avait allumé, eh bien, ils prennent d'autres braises, ils mettent ça dedans, ils rentrent dans le temple et ils sont tués. Et Dieu dit, c'est du feu étranger. Je ne veux pas de feu étranger, je veux que le feu que j'ai allumé, moi. Vous dites, c'est sévère. Non, non. C'est la pureté. Quand on veut quelque chose de pur, quand on veut quelque chose on ne veut pas d'éléments étrangers. Vous, vous voyez les médecins quand ils rentrent dans la salle d'opération, eh bien on fait tout pour éviter tout ce qui est étranger. Aïe. Ils ont des tenues que s'ils se promenaient dans la place de la ville, on rirait. Sur la tête, sur les pieds, sur de partout, puis on couvre tout et on met tout et tout. Il y a tout un rituel pour s'assurer que tout est pur, propre. Ça, c'est pour une opération. C'est pour travailler sur du matériel. Dieu dit, moi aussi, là où moi je travaille, dans ma salle d'opération, eh bien, je ne veux pas d'éléments étrangers. Je ne veux pas de feu étranger. C'est pas vous qui venez à décider ce qui. C'est moi. Vous venez avec mon feu. Vous savez, le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, les disciples étaient rassemblés et priaient dans la chambre haute. Et tout d'un coup, il y a un vent qui vient du ciel, il nous dit Actes chapitre 2, et des langues de feu sur tous ceux qui étaient réunis. Ce jour-là, Dieu a allumé un feu pour l'Église. Et ce feu-là, il a fait des lames de feu, des langues de feu pour que les hommes puissent voir. Mais en fait, c'était l'Esprit de Dieu qui était descendu et qui a envahi ces hommes. Et il nous dit qu'ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Et quand ils sont sortis dans la rue, ce n'étaient plus les mêmes. Ceux qui tremblaient, se cachaient, étaient barricadés, tout d'un coup, ils sont dans la rue et ils n'ont peur de personne. Ça, c'est le vrai feu. Bien sûr, vous savez que nous sommes dans un monde où, là où il y a du vrai, il y a toujours quelqu'un pour s'amener avec de la copie. Il paraît que on traverse la frontière italienne, là, puis on peut trouver plein de copies de beaucoup de choses. Mais surtout, il ne faut pas prendre le risque de rentrer en France avec, hein, le risque d'avoir quelques ennuis. Là où il y a du vrai, il y a de la copie. Ne distinguons le vrai du faux. Vous savez, la meilleure manière de toujours reconnaître des vrais billets, c'est de ne toucher que des vrais billets. Ce n'est pas en touchant des faux billets, c'est en touchant des vrais billets. À force de tellement toucher les vrais billets, eh bien, dès qu'on prend un faux, on dit non, ça ne va pas. Vous savez, dans la vie chrétienne aussi, ce n'est pas en allant fouillant partout et se dire, oh, j'ai besoin de la connaissance du bien et du mal. C'est ça qui a créé les problèmes pour Ève. Non, non, il dit connaissance du bien. Et passe tellement dans le vrai que le faux, il apparaît rapidement. Il y avait quelqu'un, Simon. Dimanche dernier, on a parlé de Philippe qui a apporté l'évangile en Samarie. Et on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais il y avait un certain Simon là, le magicien. Et il a vu Pierre, l'apôtre Pierre, qui imposait les mains sur quelqu'un, et puis la personne était remplie de l'Esprit Saint, recevait l'Esprit Saint. Il a dit, Oh! Il a dit, moi j'aimerais bien savoir ça. Et il s'est approché de Pierre, il a dit, Pierre, écoute, je te donne combien, tu me donnes ça. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas le Saint-Esprit. Ce qu'il cherchait, c'est quelque chose qui avait des effets semblables à ceux de l'Esprit. Le faux ressemble toujours un petit peu. Et vous savez ce que Pierre lui a dit? Il dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il dit, toi, tu cherches du faux, eh bien, et puis il y aura d'autres. Il dira, tu es dans un fil à la mer, c'est terrible que tu cherches du faux, alors que le vrai existe. Et donc, dans notre marche avec Dieu, n'essayons pas d'imiter ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ont la foi. Le feu étranger, Dieu n'accepte pas. Ce qu'il veut, c'est du vrai. Et il nous a envoyé de son esprit, et il est le vrai. Et Dieu veut Il a allumé le feu peut-être un jour, peut-être si les choses sont mal passées, vous avez été égaré, distrait, peu importe les problèmes, peu importe. Hein. Il y a beaucoup d'excuses, mais la question, c'est pas important. Comment ça s'est passé? Ce qui importe, c'est de venir à Dieu maintenant et dire: Dieu, je veux que tu restaures la flamme. Donne-moi la joie de mon salut. Restaure la flamme dans ma vie. Je veux du vrai feu en moi. Celui qui me fait aimer comme tu aimes, qui me fait être patient comme tu es patient, celui qui me fait persévérer comme tu persévères, celui qui te ressemble. Que le Saint-Esprit soit libre dans nos vies et que nous ne nous contentions pas d'autre chose que le vrai feu qui vient d'en haut. Nous voulons prier que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais accorder un moment de silence pour que vous puissiez parler au Seigneur, lui dire ce que vous avez à lui dire. Personne d'autre a besoin de savoir. C'est entre vous et lui. Et dire: Seigneur, je crois que j'ai vécu un peu ce que les enfants d'Israël ont vécu, mais tu es revenu. Et la flamme a été rallumée à Jérusalem. Et je voudrais que ça soit rallumé chez moi aussi. Et je veux te louer, t'adorer et t'obéir. Et je veux le vrai.